Madame Léger est directrice des collections patrimoniales et du programme de spectacles et d'affiches à la Bibliothèque et aux Archives nationales du Québec. Je lui cède la parole. Merci.
Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parlons maintenant de culture, de création et de patrimoine. Pour cette demi-heure culturelle, nous avons avec nous trois acteurs du milieu que je vous présente à l'instant. Monsieur Stéphane Laroche est directeur général des musées de la civilisation depuis octobre 2015. Monsieur Laroche travaille en tant que gestionnaire dans le milieu culturel à divers titres depuis 1994. Je vais vous donner de la pérennité. Il a successivement travaillé au ministère de la Culture et des Communications, à la Société de développement des entreprises culturelles, au secrétariat à la politique linguistique, à la Délégation générale du Québec à Paris, au Palais Montcalm et au Conseil des arts et des lettres du Québec, où il a notamment agi à titre de directeur de l'Action internationale, puis de président-directeur général. Je vous présente tout de suite l'intervenant suivant, M. Francis Farley-Chevrier, qui est directeur général de l'Union des écrivains et des écrivaines québécois depuis janvier 2011. Titulaire d'une maîtrise en études littéraires de l'UQAM, M. Farley-Chevrier a auparavant accompli divers mandats dans le domaine de l'édition avant de devenir chargé de projet pour l'Association nationale des éditeurs de livres de 2004 à 2006, puis agent expertise en exportation à l'Association pour l'avancement, de 2006 à 2008, et finalement directeur général de l'ASTED, l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation, et ce, de 2008 à 2010. Enfin, nous aurons le plaisir d'entendre Mme Monique Savoie, présidente fondatrice et directrice artistique de la Société des arts technologiques, mieux connue sous le nom de SAT. Mme Savoie a été nommée en 2012 bâtisseuse du 21e siècle par la Ville de Montréal pour sa contribution au développement de Montréal. Elle fonde la SAT en 1996. Formée actuellement de 30 000 membres, devenue un centre transdisciplinaire de recherche, de création, de production, de formation et de diffusion, voué au développement et à la conservation de la culture numérique, la SAT est aujourd'hui reconnue comme le navire amiral de la culture numérique québécoise et jouit d'une réputation internationale. Donc, je cède immédiatement la parole à M. Laroche. On nous a demandé de garder moins de 10 minutes de temps de parole. Je pense que le temps nous presse et le lunch s'annonce. Donc, entre 5 et 10 minutes de temps de parole pour chacun. Je vous fais signe au bout de 5 minutes peut-être pour qu'on mesure mieux le temps qui passe.
Parfait, merci. Bonjour à tous. Comme vous le savez, on nous a demandé donc de tracer quelques pistes de réflexion pour défricher de nouveaux horizons, donc des pistes qui sont tournées vers l'avenir. Qu'avons-nous à offrir comme Québécois, mais surtout, qu'avons-nous peut-être à découvrir du côté français? Quels sont nos intérêts en matière culturelle? Quels aspects à développer? Que pouvons-nous apprendre et partager avec les milieux français? Donc, je vous ferai part de quelques réflexions éparses, pour reprendre la formulation de Christian Rioux, dont je partage largement les propos de tout à l'heure. Y compris sur le musée de l'Amérique francophone. Elles sont issues donc des expériences que je retiens de mon parcours, dont Mme Léger vous a parlé tout à l'heure. Je suis en poste au musée de la civilisation depuis 6 mois maintenant, et le musée, vous le savez, est un lieu qui a pour mission de mettre en valeur l'évolution de notre société, de la civilisation, des enjeux du passé, du présent et de l'avenir. Et c'est ce qui explique probablement ma présence parmi vous aujourd'hui. Nous sommes un musée d'histoire, un musée d'art, un musée de sciences, un musée d'ethnologie qui a à cœur donc de poser toute la question de la mémoire notamment. Nous avons 5 sites, comme vous le savez, le Musée de la civilisation, le Musée de l'Amérique francophone, le Musée de Place Royale, la Maison Chevalier et le Centre national de conservation et d'études des collections. Nous gérons à travers, notamment le Musée d'Amérique francophone, l'héritage des prêtres du Séminaire de Québec, puisque le Musée d'Amérique francophone est issu du Musée du Séminaire, avec des collections classées mémoire du monde de l'UNESCO et des archives d'une grande richesse. La collection compte maintenant 625 000 objets, artefacts et documents. C'est une des plus importantes au Québec. Pour vous mettre en contexte, à sa création en 1988, le Musée de la civilisation comptait 60 000 objets dans sa collection. 28 ans plus tard, ça a été multiplié par 10. Musée de la civilisation donc, a des liens étroits avec la France, non seulement à cause de la question de la francophonie. Quelques exemples, notre exposition sur la danse contemporaine qui s'appelle Corps rebelle, qui vient tout juste de se terminer dans notre musée, sera présentée au Musée des Confluences à Lyon à partir de septembre. Actuellement, il y a une exposition d'art inuit qui issue de la collection du Musée de la civilisation qui est présentée au Musée d'art de Grenoble. Nous présenterons l'été prochain à Québec, au Musée de la civilisation, une exposition sur un phénomène de société, donc pour un musée de la civilisation que les Français nous prêtent, et vous comprendrez que c'est un phénomène en France. Alors, je parle d'une exposition sur les chiens et les chats. Évidemment, je ferai un rappel de ce que Mme Saint-Pierre a dit tout à l'heure. Et nous avons présenté il y a quelque temps le fameux traité de Paris en nos lieux. Ça a été un moment fort de la mémoire. Et nous travaillons actuellement avec le ministère des Relations internationales à préparer des activités pour souligner le 50e anniversaire du ministère des Relations internationales. Donc, s'il y a un secteur où les relations, la coopération et la collaboration entre la France et le Québec est un succès et s'est énormément développé au cours des 50 dernières années, c'est bien les arts et la culture. Reste-t-il du travail à faire? Bien sûr. Quelques pistes, donc. D'abord, l'incontournable enjeu numérique. Tout le monde en parle, tout le monde va en parler au cours de cette journée. Nous sommes de plus en plus dans une économie du partage et je suis convaincu que l'avenir de notre mémoire collective passe notamment par le numérique. La numérisation des collections, des archives, des bibliothèques, des œuvres nous fournissent une possibilité d'envahir la planète par des contenus liés à notre histoire, liés à notre langue, et c'est un moment clé, un moment charnière dont il faut savoir se saisir. Nous partageons avec la France une mémoire commune, à tout le moins en partie. Il faut que nos archives, nos documents, nos images, nos photos servent à nourrir cette mémoire commune. Il faut faire travailler des deux côtés de l'Atlantique, nos experts, nous, mais aussi nos citoyens, sur des approches collaboratives, interactives, participatives, de façon à nourrir cette histoire commune par différentes applications. Parce qu'au-delà de la technologie, le numérique est un véritable instrument de diffusion, de communication, de consommation de la culture, du patrimoine et des arts. Les musées, les bibliothèques, les centres d'archives ont tout à gagner à investir davantage et à se doter d'initiatives communes avec la France en la matière. Deuxième piste de réflexion, la question du mécénat. Où la France a une longueur d'avance sur le Québec, même si on a fait des progrès de notre côté et que parfois on est étonné d'entendre que la France a une expertise en mécénat parce qu'on pense qu'en France tout est soutenu par l'État dans le domaine culturel. C'est faux. Oui, effectivement, la France soutient extrêmement bien sa culture et on s'en réjouit, mais il y a maintenant une tradition de mécénat importante qui s'est développée, notamment par des grandes fondations, qu'on pense à Pernod Ricard, à Louis Vuitton, à Moët&Cy, à Bouygues, toutes ces fondations privées, des mécènes à la fois en matière corporative et en termes individuels, et on aurait tout avantage à s'intéresser davantage à l'expertise qui a été développée de ce côté-là de l'Atlantique en la matière. Troisième piste, la question de la médiation culturelle. Je vais vite, hein, parce qu'on m'a demandé d'aller vite. Il me reste combien de temps?
Il vous reste 4 minutes
maximum. Ça va. Oui, je vais faire. La médiation culturelle, un autre sujet où on a encore beaucoup à apprendre de la France. Au Québec, peu de gens connaissent même le terme médiation culturelle. Au Québec, la médiation, c'est souvent pour régler un conflit. C'est pas dans ce sens-là, évidemment, qu'on l'utilise. La médiation culturelle qui a été développée en France est un outil de démocratisation, de sensibilisation, de développement des publics qu'on aurait encore une fois, donc davantage à développer et à se servir de l'expertise qui a été développée au cours des dernières années dans l'Hexagone. Quatrième piste, je vous dirais l'intervention commune en pays tiers. On a parlé de l'Afrique un peu plus tôt, M. Garneau en a beaucoup parlé. En Afrique, bien sûr, on pourrait penser à l'Amérique latine aussi, où est-ce que la France et le Québec auraient tout avantage à développer des interventions communes. Ça peut être des résidences d'artistes, par exemple, des résidences croisées, mais triangulaires, organisées à la fois par la France et le Québec dans des pays africains ou d'Amérique ou dans des pays de développement, notamment. Où est-ce que les intérêts sont croisés? J'aborderai aussi, enfin, une autre piste qui est toute la question de l'urbanité, dans le sens où je crois profondément qu'une grande partie du développement de la mondialisation au cours des prochaines années, c'est déjà commencé, vont passer par les villes. Je sais qu'il y a un autre atelier qui va porter un peu plus tard là-dessus, mais je croyais que c'était important de le mentionner parce que même en matière culturelle, ça va avoir un impact majeur. Les joueurs montants sur la planète sont désormais des villes. On pense à Berlin, à Barcelone, à Hong Kong, à Buenos Aires. Montréal et Québec peuvent se coltailler avec ces villes-là, Paris évidemment. Et les villes françaises, notamment, ont une tradition importante de soutien à la culture. Elles sont des vecteurs importants du développement culturel en France. Et on aurait, encore une fois, nos villes québécoises auraient tout intérêt à développer des liens plus étroits avec les villes françaises. Bien sûr, il y en a, mais... en dehors de Paris et de Lyon, il faut penser à tout le travail qui se fait à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Lille. C'est une piste évidemment extrêmement importante. Aller au-delà des jumelages. J'apporterai enfin une dernière question qui est plus propre au Québec. Je pense qu'on aurait tout avantage à mettre davantage de l'avant la question autochtone. S'il y a un élément avec le fait français qui est fondamental à l'identité québécoise, c'est bien la présence sur notre territoire des 11 nations autochtones. C'est évidemment un élément qui est, d'un point de vue français, un aspect qui fait appel un peu à l'exotisme, mais il y a des pistes de développement extrêmement importantes. Les nations autochtones sont prêtes à rayonner davantage sur la planète. Un exemple concret, lorsque j'étais au Conseil des arts et des lettres il y a quelques mois, nous avons réussi à signer une entente France-Québec avec l'Institut culturel Avatak, le Conseil des arts et des lettres du Québec et l'École nationale des beaux-arts de Paris pour faire des échanges entre des artistes inuits et des étudiants des beaux-arts. Les élèves français sont venus à Koudjouak à l'automne et les artistes inuits iront le mois prochain en France et ça donne des résultats extrêmement importants. J'aurais d'autres sujets à aborder. Je conclue en disant, voilà quelques pistes qui devraient, à mon avis, favoriser le développement et l'enrichissement des relations culturelles entre la France et le Québec, au-delà du passéisme et au-delà de la nostalgie, et qui devraient susciter à nouveau, pour reprendre la formule de Nicolas Chibeff, un désir de France. Voilà.
C'était trop long. Merci, M. Laroche. Voilà un tempo d'enfer pour des propositions multiples. Merci pour ce marathon. Je cède maintenant la parole à M. Francis Farley-Chevrier, donc directeur général de l'UNEC.
Merci beaucoup. Alors, j'essaie de suivre le tempo de Stéphane, vu que j'écris mon texte. On va être capable. Alors, il est difficile, quand on écrit au Québec, de ne pas garder un œil rivé sur la France. Même si l'institution littéraire québécoise repose maintenant sur de solides assises, avec des écrivains au parcours prestigieux, des éditeurs dynamiques, des libraires engagés et des bibliothécaires branchés, sans oublier un public attentif, le livre québécois n'occupe toutefois que 40% de son marché, la différence revenant pour l'essentiel à l'édition française. De plus, pour un écrivain, un rayonnement en France et sans conteste un gage de succès. Ce rayonnement peut toutefois prendre plusieurs formes qui ont d'ailleurs évolué au fil du temps. Ici, j'évoquerai l'édition, les festivals, les résidences d'écriture et aussi les relations interassociatives. Je suis un peu au regret de dire que, du point de vue de la littérature toujours, la coopération se fait à certains égards de façon plutôt asymétrique. La diffusion de la littérature française au Québec n'est pas un sujet d'inquiétude pour ces acteurs. Mais cela dit, est-ce vraiment le cas pour tous? Est-ce que la dynamique marchande que je viens d'évoquer favorise cette coopération au plein sens du terme? Ou passe-t-on à côté d'occasions de connaître des écrivains français moins connus, certes, mais qui pourraient être à l'origine de rencontres déterminantes? Je crois que la balance commerciale dans le domaine du livre, et dans d'autres domaines, on n'en a pas douté, mais je ne veux pas parler de ce que je ne connais pas, cette balance commerciale, donc, vient quelque peu déformer la perception de la coopération Québec-France, du moins dans le domaine de la littérature. Mais comme je l'ai dit, cette coopération n'est pas que commerciale, et il y a d'autres angles à aborder. Alors, comme il m'a été demandé de regarder l'avenir plutôt que de brosser un bilan, je me livrerai donc à quelques réflexions sur les avantages que la littérature québécoise pourrait tirer d'une coopération Québec-France. Je ne cherche donc pas ici à critiquer les politiques actuelles ou passées, j'en ai pas la compétence. Je vais surtout chercher à attirer votre attention sur des enjeux dont la coopération pourrait assurer l'avancement dans un avenir plus ou moins rapproché. Donc, pas de bilan, donc, mais je ne peux pas passer sous silence la contribution d'organismes ou d'institutions qui auront certainement un rôle à jouer dans l'avenir de cette coopération parce qu'elles ont joué aussi un rôle par le passé. Je pense à l'Association internationale des études québécoises, Québec Édition, Livre Canada Books, le Conseil des arts et de l'aide du Québec. Là, je fais un clin d'œil tout en amitié à Stéphane. La SEDEC, la Délégation générale du Québec à Paris, évidemment, et le Consulat français à Québec et à Montréal. Alors, du côté de l'édition, le marché français demeure à bien des égards difficile à percer pour l'édition québécoise, mais depuis plusieurs années, on peut constater un essor des ventes à l'exportation grâce à de nombreuses initiatives, comme par exemple des activités de mentorat. Les nouveaux éditeurs sont très dynamiques et plusieurs écrivains québécois circulent maintenant dans les librairies françaises sous des marques françaises, qui est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on a pu voir par le passé, où c'était vraiment l'exportation d'ouvrages propres qu'on essayait de privilégier. Mais on voit que ces écrivains québécois sous des marques françaises, c'est surtout le fait de nouveaux écrivains, donc des nouvelles voix qui se diffusent différemment en France. Je crois que pour assurer ce développement, il faut maintenir de telles activités de mentorat, les soutenir, les financer, les favoriser, mais aussi donner des ressources aux jeunes éditeurs pour qu'ils développent leur réseau et puissent mettre en valeur leurs auteurs et rencontrer aussi de nouveaux partenaires. Voilà pour l'édition. Maintenant, pour les festivals. Les festivals sont des lieux extraordinaires pour la coopération culturelle. Le climat est plus que propice dans ces événements pour nouer des liens avec des écrivains d'ailleurs, et aller à la rencontre du public. Ici, nous sommes moins dans une logique commerciale, il y a donc plus de souplesse, et cela permet notamment à des écrivains moins connus de rayonner, car la programmation de ces festivals ne se fait pas a priori sur la base du succès ou du potentiel commercial. C'est donc vraiment un lieu de découverte qui profite considérablement à la carrière des écrivains. Et en termes de coopération entre l'UNEC et des festivals comme ça, donc cette coopération qu'on a avec ces festivals, ça facilite beaucoup la présence de contingents d'écrivains québécois. On a pu le voir l'an dernier avec le Festival Atlantide à Nantes, ou il y a quelques années avec le Festival Va au chapitre qui est organisé chaque année dans le nord de la France. Et à l'UNEC, on peut donc constater l'intérêt de la collaboration avec les festivals. Nous sommes même allés plus loin en développant un partenariat avec le Festival du premier roman de Chambéry. Ce festival invite des primo-romanciers publiés en cette langue et choisis par des clubs de lecture répartis dans une dizaine de pays, dont le Québec. L'UNEC y a vu une occasion en or de faire rayonner la relève en littérature québécoise et a entrepris de nouer un partenariat afin que ce festival soit mieux ancré au Québec. En plus d'avoir mis sur pied notre propre club de lecture, nous avons encouragé plusieurs libraires à faire de même. Ces clubs, au terme d'un marathon jalonné par 30 premiers romans, 15 québécois et 15 français, choisissent un lauréat québécois et un lauréat français qui sont invités au Festival de Chambéry, mais aussi au Festival Métropolis Bleu à Montréal. Nous travaillons actuellement, merci, à un projet visant à structurer cette activité de façon à en assurer la pérennité, notamment avec un soutien financier approprié. Maintenant, j'accélère un peu, je vais parler des résidences. Une autre activité qui dénote une coopération efficace, c'est l'échange de résidences d'écriture. En partenariat avec Local, l'UNEC a accueilli ces dernières années sur une base de réciprocité des écrivains belges, allemands, portugais, mexicains, colombiens et haïtiens. Dans la plupart des cas, les écrivains qui séjournent en résidence sont conviés à des activités d'accueil qui leur permettent de rencontrer des collègues et de faire connaître leurs travaux. Par exemple, nous attachons beaucoup d'importance à soutenir les écrivains que nous recevons dans leur démarche, surtout lorsque leur destination est intimement liée à leur projet d'écriture. Malheureusement, la France est actuellement absente de notre réseau d'échanges de résidence, en littérature spécifiquement. Et en voie des échanges, comme de bien des projets, plusieurs facteurs affectent leur survie. Lorsque l'un d'eux fait défaut, le projet risque fort bien de tomber. Aussi, en ce moment, nous sommes sans échange avec la France pour des résidences d'écrivains. Il y a certes des résidences gérées par local qui sont très appréciées, mais nous aimerions développer un partenariat menant à un échange spécifiquement littéraire. Les lieux propices ne manquent pas, mais il faut être en mesure pour nous de louer les liens appropriés qui vont permettre la mise sur pied de ces résidences. Et au-delà du rayonnement des artistes et des écrivains, la coopération doit aussi s'inscrire dans les sphères qui soutiennent le travail des créateurs ou qui l'affectent. En effet, dans un contexte de mondialisation, de nombreux enjeux viennent transformer les conditions de diffusion, mais aussi les conditions de pratique et de vie des créateurs, en l'occurrence les écrivains. Je pense plus précisément aux droits d'auteur, aux livres numériques ou encore aux relations auteur-éditeur. La coopération peut permettre une meilleure connaissance de la manière dont ces enjeux sont pris en charge respectivement et peut favoriser le développement de stratégies et de solutions à mettre en place conjointement ou séparément. Par exemple, la signature en 2013 d'un accord entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition en France au sujet du contrat d'édition à l'ère numérique fut pour nous à l'UNEC le déclencheur d'une réflexion extrêmement riche qui a influencé les discussions que nous nous apprêtions alors à tenir avec l'Association nationale des éditeurs de livres et qui ont mené à l'élaboration d'un modèle de reddition de comptes. Pour mettre ces discussions sur les rails, nous avons beaucoup bénéficié des entretiens que nous avons eus avec les représentants de la Société des gens de lettres à Paris, notamment lors de leur forum annuel qui, en 2013, portait justement sur la relation auteur-éditeur. Il est important qu'une coopération culturelle entre le Québec et la France privilégie le développement de liens de cette nature qui jouent un rôle structurant pour le rayonnement des écrivains et le développement de la culture.
Merci, M. Farley-Chevrier. Nous passons maintenant à Mme Monique Lavoie. Savoie. Je pense que l'appétit commence à se faire sentir pour tous. Donc, Mme Savoie, à vous la parole.
Bon, juste peut-être un petit clin d'œil aussi à la mémoire de M. Marcel Mars, puisqu'un jour, j'ai reçu une bourse du Conseil des arts du Canada qui était en fait un fonds donné par M. Mars, ou à l'époque, il était au ministère des énergies et ressources, et il avait décidé qu'il devait y avoir de l'argent du ministère de la Recherche sur le développement et les recherches dans l'Arctique qui devait être donné aux artistes. Donc, il est très important pour lui de voir qu'on ait aussi une reconnaissance des créateurs comme des chercheurs en part entière et peut-être aussi éventuellement les voir comme partie prenante d'une grande économie. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à penser à cette rencontre d'aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir depuis ce matin à entendre ce que les uns et les autres ont à dire et comment on peut se propulser. Et je nous vois presque dans une économie circulaire. Je nous revois du patenteux au patenteux presque. Je dirais que nous, à l'ère du numérique, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on crée des endroits qui sont presque des hauts lieux du bricolage. Donc, des lieux où on remet ensemble à nouveau des artistes, des ingénieurs, des penseurs, des mathématiciens, de toutes les disciplines, de tous les âges et de toutes les cultures ensemble, autour de problèmes, autour d'idées, et je dirais plus même de problèmes que de projets, qu'on met au centre d'une table et dans lesquels on vient réfléchir ensemble, en y apportant, par exemple, dans le cas de la SAT, 10 langues différentes qui sont parlées dans l'équipe, qui compte aujourd'hui 260 salariés, qui proviennent évidemment de différents lieux, mais qui souvent trouvent chez nous un premier emploi. Donc, un lieu culturel qui accueille des jeunes, encore de toutes ces disciplines, qui viennent chez nous voir comment ils peuvent participer à ces grandes questions et y participer en apportant leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être. Et tout à l'heure, j'entends parler d'humanisme et où on en était dans la francophonie. Je pense que ce sera une dimension très, très importante dans les échanges du futur. Au-delà des savoir-faire, on mettra beaucoup de l'avant les savoir-être et pour pouvoir apporter toutes ces collaborations. Donc, la SAT est devenue un lieu d'innovation et un modèle, puisqu'il y a 125 délégations par année depuis 10 ans qui nous visitent et qui se demandent comment est-ce qu'on a fait ça. Comment est-ce qu'on a fait ça, puis comment on peut exporter cette capacité-là de, je dirais, de, non-inhibition jusqu'à certains points, et cette capacité de mettre ensemble ce qui ne semblait pas aller ensemble. Depuis ce matin, on nomme beaucoup de secteurs, on donne à chacun des secteurs des objectifs, des réussites, mais on est peut-être à l'époque de cette transversalité et les réussites culturelles sont aussi des réussites entrepreneuriales. Et quand on entend parler aussi de l'économie de demain, de l'économie de partage, c'est aussi ce qu'on est en train de réfléchir en même temps qu'on crée, en même temps qu'on communique et en même temps qu'on se rapproche de, d'autres cultures. Cet espace d'innovation où arrivent donc tous ces jeunes qui arrivent souvent avec et qui cherchent un premier emploi et qui le trouvent à la SAT à travers un ensemble de projets et surtout de problèmes, se retrouvent chez nous et décident s'ils vont devenir des artistes, décident s'ils partiront des entreprises ou s'ils retourneront aux études supérieures. Et on sait qu'au Québec, on a quand même encore un problème de diplomation de haut niveau et la SAT est un contributeur de ces nouveaux diplômés, et ça demeure une de ses fonctions. Et je dirais que c'est le moment où je suis le plus fière, c'est que je suis avec eux au moment de leur vie, où ils prennent des décisions de vie. Et comment on peut les accompagner dans ces moments qui, à mon avis, sont peut-être les plus importants dans une vie, même si pour nous, ça a été d'être avec l'UFQJ et d'être allé à Percé avant 20 ans, ce qu'on a dû tous faire, puisque sinon, on n'était pas dans la gang. Donc, on a ces nouveaux savoir-faire et ces réseaux. Et je pense que l'effet multiplicateur des réseaux aujourd'hui, c'est la réponse et c'est là où on s'en va et où je pense qu'on devra aller avec la France, avec cette culture francophone, mais comme on a dit depuis ce matin, pour conquérir le monde. Parce que si on est aujourd'hui des partenaires avec la France, et on est capable d'être partenaires d'égal à égal. Et je vous dirais qu'il a fallu que je m'en convainque le jour où on m'a dit que le président de la République s'en venait dans notre pauvre petite salle sur la rue Saint-Laurent. Et j'ai fallu que je me dise, c'est bon, on reprend le collier, nous sommes d'égal à égal. Et d'ailleurs, je lui ai dit, Monsieur le Président, au moment où il m'invitait la SAT à ouvrir la conférence de COP21, je lui ai dit, on fait la même job, vous et moi. Bon, hein? On veut s'occuper des jeunes et aussi des jeunes qui vont bien. Parce qu'on est très préoccupé des jeunes qui ont des problèmes, mais est-ce qu'on est assez préoccupé des jeunes qui vont bien aujourd'hui? Et comment on peut permettre, encore une fois, qu'il y ait cette circulation d'idées, de projets, et qui permette que finalement cet amour et ce désir de la France nous reviennent et puissent participer à l'éclosion de notre société? Aujourd'hui, nous sommes invités à ouvrir Madagascar, à faire une scénographie et tout ça. Par contre, la question se pose quand on arrive dans notre grande famille de la francophonie, c'est comment s'aborder les uns les autres sans une approche coloniale? Comment arriver à Madagascar et dire, oui, bien sûr, on est d'accord de vous accompagner, Madame la secrétaire du sommet, mais on voudra y aller dans un esprit de co-création. On voudra y aller en collaboration. Et comment on pourra arriver avec les outils de la SAT et en même temps en profiter pour faire des ateliers de co-création, en même temps vous offrir nos outils et quand on partira, il y aura un leg. Il y aura quelque chose qu'on vous aura apporté et en même temps, nous, on veut bien apprendre comment vous faites du tissage et comment on pourrait faire des écrans de soie dans le futur et comment on pourrait travailler avec vous avec les différents matériaux et les différentes matières. Donc, c'est de ce grand terrain de jeu ouvert, je pense qu'aujourd'hui, on se doit de parler. Et ce grand terrain de jeu ouvert, il nous est rendu possible grâce au réseau. Et le réseau informatique qui est là en place aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour passer des données, mais c'est pour interconnecter des lieux, les uns avec les autres, de pouvoir se voir en temps réel. Et à partir du moment où on branche les espaces, les lieux, les communautés, et non pas que du 1 à 1 ou du Skype, je parle bien d'avoir des systèmes qui de plusieurs côtés, et pas uniquement du point à point non plus. Donc, comment pour aujourd'hui avoir cette conférence qui serait présentée dans toute la francophonie, mais en bidirectionnel, dans la culture de la conversation. C'est-à-dire que de l'autre côté, on pourrait aussi avoir leurs commentaires. Et pourquoi pas imaginer des écrans qui feraient le tour de la salle ici, où on recevrait les commentaires des uns et des autres qui viendraient, par exemple, alimenter notre conversation et nos échanges. Alors voilà, c'était une courte proposition. Merci.
beaucoup, Madame Savoie. Donc, en guise d'apéritif, nous avons droit à deux interventions venant de la salle. Oui, monsieur?
Oui. Alors, c'est un commentaire et une suggestion à M. Laroche. Et j'ai décidé de prendre le temps de parole parce que je me suis dit mon anecdote le ferait sourire et vous ferait probablement sourire aussi. C'est-à-dire que le musée de l'Amérique française ou francophone, il a été créé pour un ensemble de raisons, puis il a été une très bonne chose pour l'ensemble de la population du Québec. Mais je suis un ancien étudiant du séminaire de Québec qui a vécu les dernières années où ses collections étaient sur les murs de nos salles de classe, et ça a été une tragédie pour mon école. C'est-à-dire que c'est la perte. Il n'y a plus d'étudiants qui grandissent avec des œuvres d'art de la qualité de votre collection à travers ça, qui grandissent avec l'accès dans un local à vos collections d'histoire naturelle. Et c'était notre quotidien quand on était étudiant. Et je me rappelle, même j'en ai été témoin, d'une des raisons pour laquelle cette collection a déménagé, c'est-à-dire qu'un étudiant qui a fait une crise de nerfs et qui a donné un coup de poing de bord en bord d'un tableau de maître, ça l'a fait augmenter le coût des assurances. Mais avec la technologie numérique, il y a moyen de faire que nos écoles soient des lieux dans lesquels tous ces tableaux-là, toutes ces sculptures-là soient disponibles sous la forme de reproductions qui sont de très bonne qualité, que les gens peuvent être en contact avec cette esthétique plutôt que les insignifiants posters et autres babioles du genre que l'on voit sur les murs de nos cégeps, de nos écoles secondaires. Il me semble que, étant donné votre histoire, il serait bon que le Musée d'Amérique francophone prenne le leadership de rendre aux écoles du Québec ce qu'il a enlevé à une de ces écoles, qui est le Séminaire de Québec. Alors, c'était ma suggestion.
Merci, M. Garneau.
Alors, une courte réponse. D'abord, je suis un ancien du Séminaire de Québec, moi aussi. Alors, je partage complètement. Dans les travaux que nous sommes en train de mener à l'éterne, ces préoccupations-là sont très présentes. Et on va trouver des manières prochainement, justement, de mettre davantage de l'avant les collections dans l'ensemble, mais particulièrement les collections du Séminaire de Québec, dans ce lieu-là, et de les rendre aussi, de les faire partager au plus grand nombre, au Québec au premier chef, mais y compris avec la France et avec la francophonie. J'en prends l'engagement.
Madame.
Bonjour. Lise Nau, du réseau, membre du réseau Québec-France. Et surtout bénévole, engagé, dévoué au prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. Alors, on commence notre 13e édition et en partenariat avec le Festival du premier roman de Laval en Mayenne et en réciprocité avec le réseau France-Québec, on fait la promotion ici au Québec, parce qu'en France, c'est un auteur québécois, d'un premier roman français suite à un jury du public. À travers nos différentes régions du Québec, les lecteurs vont lire trois œuvres présélectionnées par un jury qualifié. Et on fonctionne... Avant, j'aimerais faire un commentaire plus global sur ce que j'ai entendu ce matin avec un très grand plaisir. On a parlé beaucoup de relations directes et privilégiées. Je veux vous rappeler que le Réseau Québec-France, depuis plus de 45 ans, Mme Blouin vous a parlé de notre mission, mais on a toujours tenu le discours de la relation directe et privilégiée, et je suis très heureuse de constater que dans les milieux politiques, économiques et institutionnels, on a intégré aussi ce langage-là. Ce que je n'entendais pas il y a à peu près 5 ans, lorsqu'on a parlé des 150 ans de la relation France-Québec. Alors, pour revenir au prix littéraire, on fonctionne vraiment avec un certain soutien du gouvernement français via le consulat qu'on apprécie énormément, mais beaucoup avec les contributions des membres de nos régions pour assumer les frais depuis un an. Et cet investissement-là, il est quand même de quelques milliers de dollars. On espère trouver du mécénat. Mais c'est un projet qui nous tient à cœur dans notre réseau et on a tout fait cette année malgré les aléas du financement, depuis un an pour le maintenir et je crois qu'on va réussir à survivre parce qu'on est très résilient dans notre réseau. Et mes aspirations pour la prochaine année, c'est de pouvoir rejoindre notre jeunesse qui n'est pas toujours facile à rejoindre, surtout quand on travaille uniquement avec ce que j'appelle de l'huile de bras, c'est-à-dire le bénévolat. J'espère qu'on va pouvoir, en tout cas, ça fait partie de mes aspirations et j'espère que ce ne sera pas un rêve, de pouvoir travailler avec les jeunes lorsque notre lauréat de premier roman français vient au Québec pour les mettre en contact avec la création littéraire. C'est beau de consommer de la littérature via le numérique, mais je pense que nos jeunes ont intérêt à pouvoir être en contact avec ces jeunes auteurs-là, parce que généralement, ce sont des jeunes auteurs qui publient un premier roman, avec la créativité, avec l'imagination à développer à travers l'écriture. Alors, ça fait partie de mes projets. J'espère avoir du support de d'autres bénévoles. Il y a des gens qui veulent bien, puis aussi un petit peu de support financier, mais c'est à un autre niveau qu'on va régler ça. Et je voulais vous partager ce projet-là, qui, à mon avis, peut être très porteur. Il est très fédérateur dans notre réseau Québec-France et France-Québec, mais qui pourrait être porteur davantage de coopération. Bien. Merci beaucoup.
Merci, Mme Nau. Merci de votre témoignage et de votre commentaire.
Merci. Merci, Mme Léger. Merci aux intervenants. Alors, c'est l'heure du dîner. Donc, on se rend au restaurant parlementaire. On suit le couloir qui est ici. Et vous tournez à droite. De retour à 13h30. Merci. Merci.